Le journal Sonia Bernauer-Mia.
Bonsoir. Dans moins de 10 ans, il fera 1,5 degré de plus sur Terre. C'est l'un des principaux constats du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, qui a livré son rapport de synthèse aujourd'hui. Les partis politiques réclament des mesures après la débâcle de Crédit Suisse rachetée par UBS. La réaction du conseiller national popiste loclois Denis de la Russie. Les petits entrepreneurs avec peu ou pas d'employés sont les plus touchés par le risque de surendettement dans le canton de Neuchâtel. C'est ce qui ressort d'observations du terrain quelques mois après le lancement d'une opération de soutien. Et le soleil devrait se faire une place dans le ciel de la région demain, entre les voiles d'altitude du matin et des nuages plus présents l'après-midi. Le climat se réchauffe plus rapidement que prévu. Il fera sur Terre 1,5 degré de plus dans moins de 10 ans. C'est le principal enseignement du nouveau rapport de synthèse du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat qui a été dévoilé aujourd'hui à Interlaken. Une fois de plus, le GIEC tire la sonnette d'alarme mais donne aussi des signaux d'espoir. Là où des mesures sont prises, le réchauffement se stabilise et une fois que toute la planète aura atteint la neutralité carbone, les températures pourraient redescendre. Mais pour le moment, le réchauffement global s'accélère. L'une des climatologues du GIEC, Sonia Seneviratne.
Ça montre simplement l'urgence à agir. À la fois, on a cette situation d'urgence où on voit qu'effectivement le changement climatique empire chaque année et qu'il a vraiment des conséquences importantes dans toutes les régions du monde, y compris en Suisse. Mais d'un autre côté, on voit effectivement que les solutions existent aussi. Et donc, c'est pour ça qu'il faut agir au plus vite, parce que suivre en fait les scénarios qui nous permettent de stabiliser le réchauffement climatique. On voit une évolution qui est un peu plus positive. Dans certains pays européens, on commence à voir un découplage entre les émissions de CO2 et le PIB. Donc, on voit que dans des pays développés, on peut continuer à vivre avec bonne qualité de vie, mais en émettant moins de CO2. En fait, on a deux tendances en même temps. Dans les pays développés, un peu une stabilisation des émissions et même une diminution. Dans les pays en voie de développement, en partie, une augmentation des émissions.
Le GIEC démontre encore que chaque dixième de degré supplémentaire a de forts effets. Actuellement, sur le plan mondial, le réchauffement, c'est plus 1,03 degré. Une hausse qui donne déjà lieu à des sécheresses prolongées, à des inondations, à des canicules et à moins d'enneigement. Et autre gros dossier du jour, après la débâcle de Crédit Suisse et son rachat par UBS, les partis exigent des garde-fous. Le PLR, le PS et les Verts réclament une session extraordinaire des chambres fédérales qui devront statuer sur l'ouverture éventuelle d'une commission d'enquête parlementaire pour établir les responsabilités. Du côté du palais fédéral, le conseiller national popiste neuchâtelois Denis de la Russie ne cache pas sa colère face aux instances dirigeantes de Crédit Suisse. À ses yeux, les autorités ont aussi tardé à agir. Denis de la Russie.
Je pense que la réaction est venue un peu tardivement, même si c'est compliqué dans un pays comme la Suisse d'intervenir sur des sociétés privées et notamment sur une banque privée. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher justement aussi de relever, je dirais, ce qui se passe dans notre pays où, dans les mêmes semaines pratiquement, donc durant la session de printemps, la majorité UDC et PLR refuse l'indexation complète des rentes AVS. C'était 7 francs par mois sur les rentes minimales pour les ouvriers, les employés, les salariés suisses qui ont contribué au développement de notre pays. Donc, je dirais, augmentation, entre guillemets, adaptation à l'inflation intégrale de 7 francs par mois, refusée par cette majorité de droite du Parlement. Et quelques jours après, venir au secours d'une banque à hauteur de 100 milliards de francs, sans même, et c'est ça qui est plus scandaleux, demander des comptes, en tout cas à ce stade, aux dirigeants de cette entreprise qui se sont, durant ces dernières années, littéralement engraissés à coups de millions de salaires et à coups de millions de bonus.
Mais l'intervention du gouvernement de hier soir fait effectivement des vagues. Si le climat était une banque, il l'aurait déjà sauvée à Genève. C'est avec ce slogan que des militants de gauche ont mené une action devant Crédit Suisse aujourd'hui. Les manifestants ont déploré l'utilisation d'argent public pour racheter l'établissement bancaire alors qu'on leur refuse des moyens pour sauver le climat, selon Théo Frey, membre d'Ensemble à gauche.
On essaye depuis beaucoup d'années, en fait, justement, de demander de l'argent pour les énergies renouvelables, pour la rénovation des bâtiments, pour la mobilité douce. Et chaque fois, on nous dit, il n'y a pas d'argent, c'est pas possible. Pareil pour l'AVS et les retraites. Donc, en fait, maintenant, on se rend compte que cet argent, évidemment, il existe, qui peut être débloqué très rapidement s'il y a une volonté politique derrière, que la Banque nationale suisse, qu'on nous dit qu'elle est indépendante, en réalité, évidemment, elle subit aussi des pressions des politiques et elle peut mettre en œuvre des décisions très rapidement. Et donc, on voit, en fait, que l'argent est là et qu'il suffit en fait de prendre des décisions politiques qui soient courageuses et fortes pour la transition écologique et sociale, d'utiliser cet argent de manière bien plus juste et de manière bien plus utile pour l'avenir.
Propos recueillis par notre correspondant à Berne, Serge Jubin, et par nos confrères de OneFM. Cet après-midi, l'action du BS a retrouvé des couleurs. Après le rachat de son concurrent Crédit Suisse, le titre du numéro 1 bancaire helvétique s'est envolé de 5,7% peu avant 15h pour s'établir à 18,14 francs, tandis que l'action de Crédit Suisse a chuté de plus de 51% à 89 centimes. La lutte contre le surendettement est au cœur de la Swiss Money Week, une semaine dédiée à la thématique de l'argent qui se tient dès aujourd'hui et jusqu'à dimanche dans le canton de Neuchâtel ainsi que partout en Suisse. L'automne dernier, l'État de Neuchâtel, la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie ainsi que l'Union cantonale des arts et métiers se sont associés pour mettre sur pied différentes actions de prévention et de sensibilisation au surendettement des entreprises. Le soutien offert aux petits patrons se concrétise par exemple par des séances gratuites de 45 minutes avec des fiduciaires partenaires. Et s'il n'y a pas forcément de secteur économique plus concerné qu'un autre, il y a un profil d'entreprise et d'indépendant davantage exposé aux difficultés, selon Joanne Mera, experte comptable de la fiduciaire Leitenberg et associée.
Souvent, la situation se dégrade petit à petit. C'est une sorte de cercle vicieux qui se met en place de manière assez finalement pernicieuse. Les dettes s'accumulent, on a de la peine à régler ses factures au quotidien. Et puis l'entrepreneur, il a à un moment donné le nez dans le guidon, comme on dit. Donc il arrête le suivi ou il abandonne petit à petit le suivi administratif, comptable, financier, qui est souvent d'ailleurs pas son corps de métier. L'énergie est mise ailleurs et c'est là où finalement il perd cette vision de la situation vraiment financière de son activité, ce qui génère après des situations très compliquées. C'est comme si on attend trop avant d'aller chez le médecin quand on est malade, ou etc. Souvent, quand on y va, c'est trop tard. Et là, c'est un peu pareil pour ces petits indépendants. On se rend compte que quand ils demandent de l'aide, c'est souvent malheureusement trop tard. Et ça devient de plus en plus compliqué après de les sortir justement des situations de surendettement dans lesquelles ils sont mis.
Des propos recueillis par Jean-Paul Picci. Retrouvez notre dossier sur le surendettement des petits indépendants sur rtn.ch. L'extinction de l'éclairage public pourrait être pérennisée à Val-de-Travers. Un rapport en ce sens du Conseil communal sera soumis ce soir au Conseil général. L'exécutif répond à une motion du groupe POP déposée il y a une année, soit avant les décisions prises par le Conseil d'État neuchâtelois en raison de la crise énergétique. Le rapport traduit la volonté de la commune de poursuivre ses efforts en termes d'économie d'énergie. Les précisions de Stéphanie Wenker.
Vous l'avez forcément constaté ces derniers mois, passé une certaine heure, toutes les communes neuchâteloises éteignent leurs lampadaires, rendant les rues complètement noires. C'est possible grâce à un arrêté temporaire du Conseil d'État qui lève l'obligation d'éclairer les passages pour piétons jusqu'à fin avril. Avec son rapport, le Conseil communal de Val-de-Travers propose des adaptations pour éteindre les lampadaires tout en gardant les passages pour piétons illuminés, comme le fait déjà Val-de-Rue par exemple. Le rapport commandé suite à la motion du POP y pose un prix, environ 650 000 francs. Ce montant permet de rééquiper les 9 villages avec des luminaires en LED ou solaires et de modifier les tableaux de commande. Actuellement, Val-de-Travers dispose de plus de 160 lieux d'allumage différents qu'il faut uniformiser. 94 passages pour piétons sont concernés. Il faudra d'abord attendre la décision du Conseil d'État le mois prochain. Si les autorités neuchâteloises déclarent un retour à la normale pour l'éclairage public, le Conseil général de Val-de-Travers pourra choisir d'adapter ses infrastructures publiques pour une extinction des lampadaires, sauf pour les passages pour piétons.
Et poursuivre l'extinction des lampadaires entre minuit et 5h du matin permettrait à la commune de Val-de-Travers d'économiser 30% de la facture d'électricité annuelle. Davantage d'excès de vitesse sur les routes neuchâteloises, le SCAN, le service cantonal des automobiles et de la navigation, a publié aujourd'hui les chiffres pour l'année dernière. Les infractions liées à la vitesse ont augmenté de près de 19% par rapport à 2021 et celles dues à l'alcool de plus de 9%. L'an passé, la commission administrative du SCAN a prononcé 4573 décisions, c'est environ 500 de plus qu'un an auparavant. Ces décisions portent notamment sur des avertissements ou des retraits de permis. Et ces chiffres sont une sorte de retour à la normale, selon Philippe Burry, directeur du SCAN.
On a clairement eu, durant les années 2020 et 2021, moins de mesures administratives qui ont été prononcées. Et pour 2022, on revient aux chiffres d'avant pandémie.
Les accidents consécutifs à des inattentions au volant ont baissé en 2022. Est-ce que ça pourrait être grâce aux slogans de prévention, notamment celui pour le cannabis et puis les différents slogans pour l'inattention ?
On espère, alors que nos campagnes de prévention ont eu un effet. C'est difficile à mettre en lien la campagne et les chiffres. Ce qui est vraiment très positif, effectivement, c'est que les accidents consécutifs à des inattentions au volant ont baissé en 2022, malgré une augmentation globale des mesures administratives. Donc le fait que ça ait baissé, c'est vraiment très positif, puisqu'une attention est une des raisons principales d'accidents en Suisse. Est-ce que ça peut aussi être en lien avec certaines nouvelles aides à la conduite ? C'est aussi possible. Nous, on se réjouit de cette baisse.
Des propos recueillis par Ella Charrère. Et en matière de prévention toujours, le SCAN a réalisé une vidéo portant sur les dangers du cannabis au volant à retrouver en lien sur rtn.ch. Un entrepreneur actif dans le domaine de la construction écope de 10 ans de prison à Zurich. Le tribunal de district l'a reconnu coupable aujourd'hui de traite d'êtres humains. L'homme a systématiquement exploité des travailleurs originaires de Hongrie et de Moldavie entre 2012 et 2016, selon la justice. Le prévenu est aussi condamné à verser des dommages et intérêts aux ouvriers concernés pour un montant total d'environ 100 000 francs. La sévérité de la peine s'explique par plusieurs antécédents judiciaires. L'Ukraine recevra 1 million de nouveaux obus, décision prise par les États membres de l'Union européenne. L'UE a accepté aujourd'hui d'allouer quelque 2 milliards de francs pour livrer ces éléments d'artillerie. Cette somme servira également à augmenter les capacités de production des entreprises d'armement de l'UE pour reconstituer les stocks des pays européens. Les États-Unis vont quant à eux débloquer une nouvelle tranche d'aide pour l'Ukraine d'un montant d'environ 350 millions de francs qui inclut des munitions pour des lance roquettes. Et puis, soutien financier en faveur de la Turquie et de la Syrie également à la suite du séisme dévastateur du 6 février. La Commission européenne a promis aujourd'hui de débloquer environ 1 milliard de francs en faveur de la Turquie. 108 millions de francs seront par ailleurs distribués à la Syrie. Et la Suisse versera de son côté 8,5 millions de francs pour les victimes du séisme.
RTN, il est 18h12.
Sport. Le Servette FC change de coach. Le club de football genevois de Super League a officialisé aujourd'hui le départ de son entraîneur Alain Geiger à la fin de la saison. Le Valaisan sera remplacé par René Weiler qui s'est engagé pour 2 saisons avec une option pour une année supplémentaire. Et puis si on ne pourra pas compter sur une partie de ses supporters, la commission de discipline de la Swiss Football League a fermé la tribune nord du stade de Tourbillon, attribuée aux fans sédunois pour un match ferme et un autre avec sursis. Une mesure qui fait suite aux incidents survenus lors du derby entre le Servette FC et le FC Sion le 29 janvier dernier à Genève. Et puis football encore, Pep manquera les premiers matchs du Portugal dans les qualifications de l'Euro 2024. Le défenseur du FC Porto a été déclaré forfait aujourd'hui pour les rencontres face au Liechtenstein et au Luxembourg. Pep souffre d'une blessure à la jambe droite. Très belle soirée.